Des livres plein les oreilles. Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour vous faire partager toutes sortes de lectures dans toutes sortes de genres grâce aux invités et aux chroniques que je vais recevoir et dont je vais et que je vais faire moi-même ces petites chroniques-là aussi. Alors aujourd'hui, l'émission va commencer avec Gérald Cousineau, que je reçois une fois par mois. Et puis, j'avais promis à Linda Amiot de la recevoir à nouveau. Vous avez fait sa connaissance il y a quelques semaines. Elle qui a créé ce collectif à voix haute que j'avais eu le grand bonheur et que vous avez eu le grand bonheur d'entendre sur les ondes de Canal M. Mais Linda Amiot est aussi auteure. Et c'est une auteure d'ailleurs très, très primée qui écrit autant pour les jeunes que pour les adultes, et j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur elle. Elle sera donc aussi avec moi aujourd'hui. Sinon, il y aura des chroniques que vous connaissez bien, la chronique sur ma table de chevet. Je me suis mise en tête de tomber dans la brique de Mordecai Richler, Solomon Gursky. C'est la nouvelle traduction de ce livre-là que tout le monde attendait, parce que tout le monde était d'accord pour dire que la première n'était pas terrible. Et puis, il y aura la bande-annonce, la semaine prochaine, c'est David Goudreau qui sera là, le slammer, pour son livre La bête à sa mère. D'ailleurs, il y en a un autre qui vient de sortir, mais comme vous le savez, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il soit enregistré. On le réinvitera à ce moment-là. Il y aura aussi la rubrique des nouvelles et des livres. Je n'étais pas revenue sur la mort de Georges Hébert Germain, et pourtant, il y a tellement de livres de M. Hébert Germain qui sont disponibles ici au SQLA que ce serait quand même dommage. Et puis on terminera évidemment l'émission par quelques nouveautés en rafale. Mais tout de suite, on va aller rejoindre Gérald. Bonjour, cher Gérald.
Bonjour, Clotilde.
Comment ça se passe, ce début d'année? Tout va bien? Il n'y a pas de bobos? Il n'y a pas de... Non, pour vous?
Ma foi, pour un vieux schnock comme moi, je vais dangereusement bien.
J'adore ça quand vous vous appelez le vieux schnock. J'aime parce que c'est surtout que j'aime bien l'intention. Le vieux schnock.
Oui.
Gérald, vous passionnez de littérature, qui faites encore des chroniques sur la chaîne Ami.
Des
chroniques littéraires, et qui avait aussi la gentillesse, une fois par mois, de venir nous parler un peu de vos lectures, et notamment d'une lecture que vous avez particulièrement appréciée récemment.
Oui, et Madame Alice Fernet, d'origine française, Le règne du vivant, paru en 2014, on l'a au SQLA. C'est un petit livre, relativement petit, 206 pages. Bon, vous connaissez sans doute Alice Fernet, née Cécile Brosselet en 1961. Et pourquoi Fernet d'ailleurs? Rappelez-vous, c'était une résidence de Voltaire qu'elle admire et qui est née le même jour qu'elle.
Ah.
Alors d'où son nom de plume, Fernet. Alice Fernet. Et elle a également, elle a écrit beaucoup de choses. Elle a écrit entre autres la conversation amoureuse, et non pas, comme je l'ai déjà entendu, la conservation amoureuse.
ça me fait penser, vous allez écouter Le beau vélo de Ravel, comme j'ai déjà entendu aussi.
Et même Maurice Gravel.
Alors, ça fait du bien de rigoler.
Les questions ici. C'est un livre, Clotilde, un véritable coup de poing. Aïe.
Ah oui.
Elle nous assène un véritable coup de poing. Donc, c'est l'épopée, oui, vraiment, l'épopée d'un homme convaincu, et c'est raconté par un journaliste norvégien qui est, curieusement, le petit-fils d'un harponneur.
Oh mon Dieu.
Quand on pense au sujet du livre, ça tombe bien. Alors, ce journaliste-là s'embarque sur un bateau qui s'appelle l'Arrowhead. Mm-hmm. Il se retrouve là avec une poignée de militants. Et à leur tête, qui est-ce qu'on trouve? Le fameux Magnus, enfin fameux, dans le roman, Magnus Wallace, qui est un personnage, mais vraiment hors du commun. Il agit avec des moyens dérisoires, mais il a un sens du timing ou de la communication étonnant.
Ah oui?
Ah oui. Et je ne sais pas si le nom de Paul Watson vous dit quelque chose. Le Canadien, l'écologiste Paul Watson, eh bien, s'est inspiré de lui. Que, okay. J'ai étudié un petit peu la vie de Paul Watson et effectivement, on retrouve une bonne partie de ce qu'il a fait dans le personnage de Magnus Wallace. Donc, tous ces gens-là, Magnus à leur tête, à bord de leur petit bateau, l'Arrowhead, eh bien, ils vont se balader dans les zones protégées ou supposément protégées des océans, où se fait malheureusement la pêche à la baleine, où se fait parfois une surpêche, où se fait aussi le braconnage. Bref, ils ont du pain sur la planche. Alors, c'est cette épopée-là que raconte Fernet, et on voit, et oui, sans jeu de mots, on est avec les marins, avec le capitaine, et là, ils vont pourchasser, mais littéralement, pourchasser les braconneurs, et même, entre autres, il y a des scènes incroyables. Le petit bateau va éperonner le baleinier, l'immense baleinier japonais, et il lui fait un petit peu mal, juste assez pour que le baleinier doive rebrousser chemin. Ouais. Mais c'est incroyable, c'est vraiment David contre Goliath.
Oui.
Et si vous avez la fibre écologique, ça va marcher. Parce que, évidemment, là, elle va prêcher à des convertis. Si vous n'êtes pas sûr de votre fibre écologique, mais je dirais, allez jusqu'au bout. Là, peut-être que vous allez être convaincu.
Cependant, dans l'Express, par exemple, on disait que Madame Fernet ne signe pas un brûlot écolo, mais bien un roman fort et bouleversant. Hein?
Oui, mais de toute évidence, elle appuie. Elle appuie la dissidence de ces écologistes controversés. Alors, je pense que, d'ailleurs, j'ai vu aussi quelque part, on parlait d'un roman documentaire, parce qu'il y a comme une thèse là-dedans, il y a comme un discours écologique évident. Alors, ça peut dérouter le lecteur, mais moi qui suis écologique dans l'âme, c'est sûr que ça m'a plu. Et d'autant plus que ce monsieur Wallace est en but aux exactions des écologistes eux-mêmes, qui le trouvent trop. il trouve qu'il va trop loin, qu'il est carrément misanthrope. C'est comme si Wallace avait pris le parti. D'ailleurs, il dit quelque part, je suis le citoyen de la Terre, la nature seule commande mon respect. Alors, on l'accuse, bien sûr, de misanthropie, mais lui, il a décidé qu'il allait combattre la surpêche, la pêche illégale en zone protégée, et il le fait avec une ardeur incroyable. D'ailleurs, je ne vous compte pas la fin, mais la fin est épouvantable. Il va en payer le prix.
Ah oui, hein. Donc c'est un espèce de parce que moi, depuis tantôt, j'ai des images de Moby Dick dans la tête, surtout que nous en avons parlé à l'émission récemment, et je me suis dit, oh zut, c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de Moby Dick le même jour, parce que ça, en tout cas. Et il paraît qu'il y a des scènes, au niveau de l'écriture, hein, c'est très
beau,
intéressant.
Je pense au passage, Clotilde, entre autres, où elle décrit la vie des océans, la vie sous-marine.
Ah, c'est ça.
De toute beauté. Et ça nous donne le goût de prendre la première croisière qui se présente.
Ah oui.
Mais, et là, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on va continuer à manger du poisson, par exemple? Parce que tous ces sujets-là sont abordés. Est-ce que c'est bon de continuer à vider les océans comme on le fait actuellement? Il y a des scènes, entre autres, très, très dures. Pensez à ces pêcheurs qui pêchent le requin.
Ah, il paraît.
Ils coupent les ailerons du requin. Alors, le requin, qu'est-ce qu'il fait? Il coule au fond de l'océan. Il meurt, évidemment. Pourquoi? Pour satisfaire un besoin grandement asiatique d'ailerons de requin.
C'est
terrible. Alors, on se demande, est-ce que ça fonctionne encore, ça?
Oui.
Dans le doute, on souffre.
Ah oui, écoutez, j'ai encore vu un reportage, pas plus tard, qu'il y a quoi, 3 mois, à l'émission Thalassa, je pense, où effectivement, les ailerons de requin, c'est encore un des mets les plus recherchés et les plus chers en Asie.
Pensez à ces centaines de requins, à ces centaines de baleines qui disparaissent alors qu'ils ne devraient pas disparaître parce qu'ils sont supposément protégés. Malheureusement, il semble que ça continue à se faire comme ça. Enfin.
J'ai un petit extrait, si vous me le permettez. Je ne sais pas si je vais le lire en entier, mais alors, elle dit, mais du moins, je ne sais pas qui parle, mais je pense que c'est M. Wallace, peut-être. Oui. « Je suis fière de ne pas me conformer aux manipulations des modérés. Je crois que leur temps est passé. J'ai bu le lait de mai 68. J'ai cru mise à mort la société de consommation. J'ai écouté les yeux écarquillés, les gouvernants du monde entier s'inquiéter de l'avenir de la Terre. Qu'ont-ils fait depuis leur sommet ? Qu'ils parlent donc ?» Et qu'on me traite d'extrémiste. Je le suis si la modération consiste à ne rien faire. La passivité, ce n'est pas mon truc.
Ça, c'est tout à fait Magnus Wallace. C'est vraiment lui qui s'exprime. Et d'ailleurs, Fernet va renchérir en disant que l'homme est une sale bête. Ça dit tout. Là, c'est l'auteur qui s'exprime.
Oui. Oh, ben, écoutez, on va rappeler le titre de
Alors,
ce...
Le règne du vivant, d'Alice Vernet, et c'est très bien lu.
Okay. Ah, c'est ça, parce oui, que ça, c'était ma dernière question. Oui, ça, c'est bien lu. Et donc, c'est disponible au SQLA.
Je ne sais plus si c'est en ligne seulement ou en CD, mais je dirais, faites le détour, parce que c'est un livre qui va vous laisser un souvenir assez durable.
D'accord, Gérald. Je voudrais juste épeler peut-être Fernet pour les gens.
Fernet, comme le château de Voltaire.
Oui, voilà, exactement. Mais enfin, remarquez, honnêtement, je ne savais pas que le château de Voltaire s'appelait...
Moi, j'y ai séjourné il y a longtemps, évidemment.
Oh, ben, regardez-moi le vieux schnock, là, qui nous fait le coup du...
Le coup du Voltaire.
Non, mais ça se place bien dans une conversation.
Oui, bien sûr.
Cher Gérald, c'est toujours plaisir de vous recevoir à cette émission. On se retrouve le mois prochain.
J'espère bien.
Si Dieu le veut, comme je dis toujours.
Au revoir, Clotilde.
Allez, au revoir, Gérald. Passez une belle fin de journée.
Merci.
Alors voilà, j'ai mon invitée près de moi, Linda Amiotte, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes remise à la même place exactement que la dernière fois que vous êtes venue.
J'ai certaines habitudes.
Oui. Ah, c'est ça exactement. Linda Amiotte, je voudrais le rappeler peut-être pour les gens qui se joignent à nous, que vous avez entendu il y a quelques semaines, alors qu'elle accompagnait deux comédiens qui font partie du collectif À Voix Haute, un collectif de lecture à voix haute que vous avez créé, Linda Amiotte. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps à ce moment-là de parler de Linda Amiotte, l'auteur. Et Dieu sait si vous êtes un auteur, bon d'abord, qui est bien représenté au SQLA ou à l'INCA, parce qu'il y a quand même trois livres qui sont là. Okay. Et puis, surtout, vous êtes primé, vous en avez des prix, puis des distinctions, c'est extraordinaire. Par exemple, j'ai entre les mains cette petite plaquette. Je vous le dis tout de suite, à la maison, c'est une petite bulle. C'est une bulle de fraîcheur que cette petite plaquette-là, qui se lit très rapidement, effectivement, il y a quoi, une centaine de pages à peine, voyez-vous, 84. C'est de toute beauté, ça s'appelle Le Jardin d'Amsterdam, et je comprends que vous ayez reçu pour Le Jardin d'Amsterdam, Linda Amiotte, le prix littéraire du gouverneur général, quand même, et le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal.
Oui, effectivement.
Alors, ça fait chaud au cœur, ça.
Ah, oh, tout à fait, et d'autant plus que je ne m'y attendais
Contrairement
pas
à ce qui vient d'être annoncé,
en fait,
veuillez prendre note que l'émission avec David Goudreau sera diffusée le jeudi
Alors,
3 mars
au
prochain.
Alors, au départ, les trois premiers romans que j'ai faits, c'était des romans pour adultes, là, des romans tout public. J'ai eu l'idée du premier roman jeunesse, mais en fait, bon... Jeunesse. Moi, je pense que souvent, la littérature jeunesse, les adultes peuvent très bien
Mais
lire.
Regardez, la jeune que vous avez en face de vous a beaucoup apprécié, la petite jeune.
Alors, le premier roman jeunesse qui s'appelait La fille d'en face.
Dont on va parler d'ailleurs aussi, je voudrais bien.
Avec celui-là, j'ai remporté le prix des libraires. Catégorie jeunesse, et le prix TD de la littérature jeunesse, la première année. Alors, je m'y attendais vraiment pas.
Vraiment pas.
J'étais évidemment très contente. Mais au deuxième roman jeunesse, je m'y attendais encore moins, parce que tu sais que quand un premier roman a bien marché, qui a reçu l'approbation des pairs, finalement, et de la critique avec des bonnes critiques, avec des prix... Tu te dis, le deuxième, ils vont t'attendre au tournant. Ils vont... Et finalement, quand j'ai su que j'avais que je recevais le prix du gouverneur général, et ben, ça a commencé par le prix des...
Le prix jeunesse, le prix des bibliothèques de Montréal.
De la ville de Montréal. Alors là, bon, j'étais vraiment estomaquée. Alors imaginez-vous comment je peux me sentir pour le troisième que j'ai commencé. Là, je me dis, bon, OK, qu'est-ce que je peux vouloir de plus?
Alors, écoutez, parlons-en d'abord de Le Jardin d'Amsterdam. Petite bulle, je vous le disais, même si je sais que je m'adresse à des non-voyants, partiels ou pas, j'ai quand même envie de vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-voyants qui pensent en termes de couleurs. Et ce texte-là, c'est une petite bulle de couleur, parce que le jardin, il y a son importance, parce que l'un des personnages principaux est quelqu'un de très coloré. Alors, et on la voit, je veux dire, cette femme, Adèle, avec son petit chapeau, avec son petit chien qui ressemble au mien comme deux gouttes d'eau. Alors en plus, pour moi, c'était facile à imaginer la chose. Mais alors, d'où vient ce personnage d'Adèle? C'est vraiment quelque chose que vous avez complètement imaginé, cette rencontre improbable entre cette petite fille et cette femme?
En fait, les personnages, je ne pars pas avec un thème, je ne pars pas avec une idée. Par exemple, je voudrais écrire un roman sur la Deuxième Guerre mondiale ou sur le pardon. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est des personnages qui m'apparaissent, qui se mettent à me parler, qui insistent. Alors, Hélène...
Intéressant.
Hélène...
La nuit, oui, excusez-moi.
Oh, ils insistent à toute heure du jour et de la nuit.
C'est vrai. Ils frappent à votre porte constamment.
Oh oui, ils sont très insistants. Alors, Hélène, qui est la jeune fille qui a 16 ans, était déjà dans le roman La fille d'en face. C'était un des deux personnages principaux. Et quand j'ai eu terminé, elle n'avait pas terminé de me parler. Et elle est encore là, puis je ne sais pas comment est venu le personnage d'Adèle, qui a quand même 86, quelque chose comme ça. C'est une espèce de mélange entre un personnage que j'avais vu dans un magazine sur le jardinage, entre une de mes tantes, entre... Puis c'est créé comme ça, ce personnage-là. Alors, c'est ça. Adèle est née comme ça. Elle me parlait, elle aussi. Alors, bon, je les ai suivies. J'ai pas le même choix.
Et ces deux personnes-là vont se rencontrer et on peut le dire, parce que, bon, c'est quand même le thème de ce livre-là. On n'en dira pas trop pour que les gens aillent voir ça, mais on dira pas ni le début ni la fin, mais... Elles ont toutes les deux en commun une grande histoire d'amour.
Effectivement, à des âges complètement différents.
À des âges complètement différents.
Dans un cas, c'est son premier amour, Hélène. Voilà. Dans le cas d'Adèle, c'est aussi son premier amour, mais un premier amour inoubliable dont elle se souvient 60 ans plus tard.
Et dont elle ne s'est vraiment jamais remise, finalement.
Non, tout à fait.
Exactement.
Effectivement. Alors, c'est une histoire d'amitié.
D'amitié,
très forte,
c'est ça.
Qui s'installe, comme il peut s'en installer souvent, entre une jeune fille et sa grand-mère, par exemple, que ça va au-delà du lien de parenté. Ouais. C'est une complicité qui s'installe.
Oui, mais moi, je dis que ça va au-delà aussi de ce lien de parenté. Moi, quand elles sont ensemble et qu'elles se parlent et qu'elles s'écoutent, parce qu'elle s'écoute aussi beaucoup. Il me semblait entendre les abeilles dans les fleurs. Quand elle mange, je me souviens plus, les petits biscuits, elle lui fait des petits biscuits hollandais. On dira pas pourquoi, mais la Hollande, de toute façon, le jardin d'Amsterdam a son importance là-dedans. Et encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Alors, bravo. Je rappelle le titre de ce premier livre de Linda Amiot dont nous parlons ce matin. Cet après-midi, qu'est-ce que je dis ce midi d'ailleurs, ce sera encore mieux. Le jardin d'Amsterdam chez Leméac. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait à langue. Mais ça, je suis un petit peu frustrée parce que c'est le premier d'une trilogie, ça.
Oui, c'est le premier que j'ai publié. À langue, bon, c'est H-A.
Oui.
L-O-N-G.
Voilà.
C'est un lieu au Vietnam. Alors, c'est l'histoire de deux mères. C'est deux voies parallèles. Une mère biologique qui est forcée de donner son enfant à l'adoption et une mère adoptive qui vient du Québec. Alors, c'est leur histoire parallèle aux deux.
Elles ne se rencontreront jamais. OK, d'accord.
On ne le sait pas.
J'ai posé la mauvaise question.
On ne le sait pas. Je préfère toujours faire des fins ouvertes qui laissent la place au lecteur d'imaginer ce qu'il veut.
Oui. Et est-ce que j'ai raison de dire que c'est une trilogie?
En fait, c'est plus une série trilogie.
D'accord.
Au sens où, un petit peu comme pour l'histoire de la fille d'en face et le jardin d'Amsterdam, il y a des personnages qui reviennent.
Bon.
Alors, à longue, il y a un personnage qui était un personnage secondaire qui revient dans le roman d'après qui s'appelle Les Murs Blancs.
OK.
Où là, on est au Mexique en bonne partie. Et il y a un personnage qui est dans les deux précédents, qui est un personnage secondaire aussi, qui revient dans le dernier qui s'appelle Au matin. Alors, ça se passe au Québec.
Oui, et qu'on va faire une demande tout de suite, d'ailleurs, en sortant d'ici, à la directrice à côté de chez Vues et Voix pour lui dire, écoutez, est-ce qu'on pourrait enregistrer la suite? Ce serait dommage, puisque Along est déjà là, alors il faudrait...
Bon. Et puis, il y a le recueil de nouvelles aussi qui est sorti en même temps que le Jardin
d'Amsterdam. Alors, lui non plus, on ne l'a pas. Puis vous savez, ici, on ne parle pas trop parce qu'on trouve ça terrible. lorsqu'on parle de livres auxquels les gens n'ont pas accès. Alors, mais par contre, on va en faire, je vous dis, la demande officielle, ça c'est certain. Et puis il y a La jeune fille d'en face, c'est ça?
C'est ça, c'est le roman...
Où l'on découvre c'est Hélène.
Oui, effectivement, c'est le premier roman jeunesse où on découvre Hélène et son amie Léna.
Oui. Qui, elle aussi, d'ailleurs, fait partie brièvement...
Un tout petit peu. Du jardin d'Amsterdam.
C'est pas un personnage central, mais quand même, elle est là aussi.
Alors que dans le premier, ce sont les deux personnages centraux.
Oui.
Et, c'est une histoire aussi qui s'adresse à deux jeunes filles de 16 ans, mais des histoires d'amitié, là, des histoires d'amitié qui vont bien et qui, tout à coup, vivent une période très difficile et des amitiés qui se brisent. Des ruptures d'amitié, des dissensions, des jalousies qui durent une vie qui tout à coup éclate. Ça existe autant chez les adultes. Il y a des gens qui me disaient, je me suis revue avec mes amis proches dans cette histoire.
Ah oui. Ce sont des histoires de femmes, beaucoup, hein?
Oui, à date. Celui que je suis en train d'écrire, c'est un jeune garçon de 16 ans, le personnage principal.
Ah, bon. OK. Non, parce que moi, je voyais ça, parce que les trois livres dont on vient de parler, le Jardin d'Amsterdam, à Long, et puis la fille... D'ailleurs, c'est pas la jeune fille, c'est la fille d'en face. C'est ça, ce sont vraiment des histoires de femmes, quand même.
Oui, hein. Il y a des personnages masculins, mais c'est sûr qu'ils restent secondaires dans ce cas-là, mais l'amitié... Les garçons entre eux, ou les hommes entre eux, vivent des histoires d'amitié. Elles se vivent différemment, mais sont aussi parfois complexes que celles des femmes.
Linda Amiot, qu'est-ce que vous lisez, vous? Parce que c'est une question que je pose très souvent aux auteurs qui viennent participer à l'émission. Qu'est-ce qui vous emballe? Qu'est-ce qui vous touche?
Ce qui me touche d'abord et avant tout, c'est une écriture.
Ah, OK.
Tantôt...
D'ailleurs, la vôtre... c'est vrai que j'aurais... Regardez, répondez-moi, puis après je pourrais lire un petit extrait. Parce que je trouve que vous avez une très, très belle écriture.
Alors, Monsieur Gérald...
Gérald Cousineau.
Qui parlait tantôt, parlait d'Alice Ferné. Ouais. Moi, celui d'Alice Ferné que j'ai adoré, c'est Grâce et dénuement. Ça, c'est magnifique.
Ah oui. Ouais,
mais j'aime des choses très, très éclectiques.
Oui.
Je vais aimer des briques de Gabriel Garcia Marquez. Je vais aimer du roman policier. Je vais aimer toutes sortes de choses. Mais d'abord et avant tout, c'est un type d'écriture qui me plaît. Aki Shimazaki, par exemple. Ou bien, et les Surcotes. Ou bien, qui d'autres que je pourrais nommer?
On
veut les nommer, c'est toujours dans ce temps-là que ça nous...
J'imagine qu'il y en a quelques-uns sur votre table de chevet aussi.
Oui, quelques-uns.
Si vous me le permettez, juste un petit extrait comme ça. Adèle me regardait toujours. Moi, je regardais les pommiers en fleurs. Beau à pleurer. C'est pour ça que les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Juste pour ça. Puis, elle a baissé la tête vers la petite chienne qui somnolait. Un moment, elle a paru tout à fait absorbée par ses doigts qui allaient et venaient tout doucement dans les poils soyeux. Hypnotisée, je suivais ses gestes lents. J'aurais voulu être loup. J'aurais voulu poser ma tête sur les genoux d'Adèle et sentir sa vieille main dans mes cheveux. Je trouve ça magnifique. Et encore une fois, je trouve que c'est très coloré, imagé. Et je vous avais posé la question, est-ce que ça a été lu par vos comédiens? Est-ce que parce que
celui-là, ils l'ont fait. Ils vont le refaire au mois d'avril à Saint-Philippe sur la rive sud. Ils l'ont fait quelques fois aussi dans d'autres endroits.
Mais ça se lit très, très bien à voix haute parce que ce sont des petites phrases très courtes et vous utilisez le point à merveille, Linda Amiot. Ah,
merci.
Non, mais c'est vrai, petites phrases, vraiment. Alors, je vous remercie infiniment d'être venue jusqu'à nous. Ça a vraiment été beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir pour moi aussi, en plus de lire Le Jardin d'Amsterdam, que je vous recommande, à Long aussi, H-A-L-O-N-G, et La fille d'en face. Merci, Linda Amiot.
Merci.
Elle dit, tant qu'on peut s'occuper du ménage, faire les courses et puis aller de temps en temps prendre un café avec des amis de son âge, il ne faut pas se plaindre à 80 printemps. Tout est propre chez elle et la maison repose, pleine d'objets glanés tout au long d'une vie, auprès du lit trop grand, dans un cadre en bois rose. Elle a mis la photo d'un homme qui sourit. L'heure murmure, le jour s'en va, la tendresse reste là. Elle devient bavarde comme une jeune fille lorsque je vais la voir, trop rarement, c'est vrai, et passant en revue le quartier, la famille, elle trouve les gens, ma foi, bien compliqués. À pas menus, elle va parfois chez la coiffeuse, où s'achète une robe quand fleurit le lilas, comme pour s'excuser. Elle soupire rêveuse, il faut rester jolie, même s'il n'est plus là. L'heure murmure, le jour s'en va, la tendresse reste là. Elle reçoit souvent des veuves, des voisines, parce qu'elle sait les mots qui consolent un peu, et dispose au salon, sur une nappe fine, les tasses du dimanche en porcelaine bleue. Elle est tout à la fois si fragile et si forte que je voudrais encore la serrer dans mes bras, avant qu'un souffle chaud tout doucement l'emporte vers l'homme qu'elle aimait et qui l'attend là-bas. L'heure murmure, le jour s'en va, la tendresse reste là. L'heure murmure, le jour s'en va, la tendresse reste là.
La vieille dame de Michel Buller, une chanson de circonstance après avoir reçu Linda Amiot autour de son livre, notamment Le Jardin d'Amsterdam. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission Des livres plein les oreilles dans quelques minutes. Des livres plein les oreilles, la suite, chronique sur ma table de chevet. Un livre que je rêvais de voir arriver sur ma table de chevet. Je pense aussi que vous aussi, vous rêviez de le voir arriver au SQLA et il vient de sortir en livre audio adapté. Vous pouvez le trouver depuis seulement quelques jours, deux semaines en fait. Il s'agit de Solomon Gursky, de Mordecai Richler. On s'entend, on sait que ce livre-là est sorti depuis fort longtemps, mais là, ça, c'est la nouvelle traduction. Et ça, c'est un événement parce qu'on trouvait que M. Richler n'avait pas été traduit à la hauteur de son roman. Et là, on a donc demandé à deux nouvelles personnes de se pencher sur la traduction de ce roman-là. Je voudrais m'appuyer pour cette chronique sur un papier qui était sorti dans Le Devoir il y a quelques temps et qui disait justement tant de temps, il aura fallu tant de temps avant de pouvoir tenir entre ses mains une traduction française respectable de Solomon Gursky. D'ailleurs, Solomon Gursky was Here, car ce grand roman de Richler, qui est une œuvre de maturité, hein, qui a d'abord été publié en anglais en 1989, qui a souffert tristement, comme la majorité de l'œuvre de Richler, de première traduction franco-française qui était vraiment pitoyable aux oreilles québécoises. Alors, presque 15 ans après le décès de l'auteur, Solomon Gursky et 5 autres romans de Richler vont trouver une nouvelle voix française, composé par le duo de traducteurs Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Qui était Richler? Il faut rappeler que c'était un juif. Il était né sur la rue Saint-Urbain, en plein Mile End, et l'homme qui va tirer sa vie durant, absolument sa vie durant, sur tout ce qui bouge, poussé par une vision absolument absurde du monde. Et pour son néo-traducteur Paul Gagné, Richler compte parmi les plus grands romanciers montréalais et donc québécois, et il faut idéalement le lire sans préjugé, sinon vous allez avoir du mal, en établissant une distinction entre le romancier et le polémiste, ou même le provocateur, qui peut parfois être très, très dur. Alors, le couple au pupitre, comme dans la vie d'ailleurs, a choisi de ne pas lire les traductions antérieures des textes de Richler vers le français. En revanche, a précisé Gagné, nous nous sommes documentés sur l'homme, nous avons lu par exemple sa biographie, question surtout de mettre les romans en contexte. Une des difficultés de leur entreprise, c'est de rendre compte d'une réalité plus ancienne qui leur est forcément moins familière. On parle de Montréal dans les années 1940-1960, moment que nous n'avons pas connu, poursuit M. Gagné. Et pourtant, maintenant, je peux vous le dire, cette traduction, je n'ai pas lu la première, mais celle-ci, moi, personnellement, me comble. Et bah, écoutez, pour en juger, comme je le fais souvent, un extrait, bien sûr, et comme je le fais souvent aussi, le tout début de ce livre, Solomon Gursky. Un beau matin, c'était durant la vague de froid sans précédent de 1851, un gros oiseau noir et menaçant, tel qu'on n'en avait encore jamais vu de pareil, apparut au-dessus du pauvre village industriel de Magog, multipliant les descentes en piqué. Luther Hollis l'abattit d'un coup de Springfield. Puis les hommes virent une meute de 12 chiens surgir en jappant du vent et des neiges tourbillonnantes du lac Memphrémagog gelées en cette saison. Les bêtes tirait un long traîneau lourdement chargé, à l'avant duquel se tenait Ephraim Gursky, petit homme féroce et encapuchonné dont le fouet retentissait sans cesse. Ephraim s'approcha de la rive où il se mit à faire les 100 pas en interrogeant les cieux. Du fond de sa gorge émanait un cri inhumain, une sorte d'appel triste, à la fois navré et rempli d'espoir. Permettez-moi de faire une petite ellipse. Voulez-vous bien me dire, fit-il, ce qui est arrivé à mon corbeau? Hollis l'a abattu. Ebenezer Watson tapa du pied contre les patins du long traîneau. « Hé, c'est fait en quoi, ces foutus machins ?»« Rien à voir avec les matériaux habituels, en tout cas. »« C'est de l'omble. »« De l'omble ? Du poisson. » Ephraim se pencha pour libérer les chiens de leurs traits. « D'où venez-vous ? » ?»« Du nord, mon brave. »« Où ça, au nord ?»« De loin, » répondit-il. Voilà pour Solomon Gursky. C'est l'indicatif de la bande-annonce. La semaine prochaine, on sera dans un univers complètement différent. On sera dans l'univers de David Goudreau, slameur extraordinaire. Un type qui est non seulement slameur, poète et parolier, qui est également travailleur social. Il est le premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de poésie à Paris. C'est quand même pas rien. Et il a sorti un premier livre il y a quelques mois qui s'appelle « La bête à sa mère ». Il va venir nous présenter ça. Il y a un article dans le journal le Nouvelliste, dont il est, parce qu'il est originaire de Trois-Rivières, David Goudreau, qui a beau avoir connu une trajectoire intéressante dans les univers du slam et de la poésie, il savoure actuellement cette bien belle entrée dans le milieu littéraire. littéraire, sous le profil, cette fois-ci, d'un romancier, écrit Linda Corbeau. La Bête à sa mère a nécessité tout dernièrement une troisième impression pour un tirage totalisant près de 4000 bouquins, ce qui est déjà très, très, très bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de la... du parcours d'un homme, je vous avouerai que je ne l'ai pas encore fini. C'est le drame familial d'un homme seul. Voilà ce qu'on peut lire, notamment en quatrième de couverture, d'un homme seul et des chats qui croisent sa route. Tout petit extrait ici, ma mère se suicidait souvent. Elle a commencé toute jeune, en amatrice. Très vite, maman a su obtenir la reconnaissance des psychiatres et les égards réservés aux grands malades. Pendant que je collectionnais des cartes de hockey, elle accumulait les diagnostics. Et je vais donc vous lire le prologue à ce livre-là. Je vous rappelle que c'est « La bête à sa mère » de David Goudreau que je reçois la semaine prochaine. Prologue donc. Vous avez trouvé le cadavre. Vous devez disposer de toutes les preuves circonstancielles et médico-légales dont vous avez besoin. L'affaire est classée. Vous avez déjà tiré vos conclusions. Mais on ne peut arriver à sa conclusion avant de connaître l'histoire. Voici ma version. Je me livre à cœur ouvert. Ça ne changera rien, peut-être. Peut-être tout aussi. Si ça n'excuse pas mon geste, ça peut l'expliquer. L'essentiel est dans ce document. Vous y trouverez des circonstances atténuantes ou aggravantes. Je prends le risque. Vous pourrez croire que c'est romancé ou que je me donne le beau rôle. Dans mes souvenirs, dans ma tête, c'est ce qui est arrivé. C'est ma vérité et c'est la seule qui compte. Je vous laisse en juger. Je vous jugerai aussi, en temps et lieu. Je demande que ce document soit déposé en preuve et remis au juré. Je suis prêt à corroborer chaque paragraphe sous serment. Alors, de quoi parle-t-il ? De quoi est-il question ? Tout de suite après, ce sont les mots que je vous ai déjà lus. Ma mère se suicidait souvent. Elle a commencé très jeune en amatrice. On a très, très hâte d'interroger David Goudreau sur le stanqué, oui. David Goudreau sur La bête à sa mère. Il vient d'en sortir un autre. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça une suite, mais comme ça vient juste de sortir sur papier, bien sûr, ça ne sera disponible que dans quelques mois et malheureusement. En tout cas, sur papier, c'est sorti chez Stanqué la semaine prochaine. Prochaine à l'émission Des livres plein les oreilles, David Goudreau.
C'est la faute au silence, si les salons s'allient, si les missiles s'élancent, si nos sorts sont salis, c'est la faute au silence. Ça commence d'un cours d'école, entre les cours ça déconne, se lance de drôles de corps d'école, tu fais pas dans le décor, on va s'occuper de ton corps. La peur longe les corridors, règlement de compte et corridors. On sacrifie le plus faible pour faire partie du tas, sur une rumeur ou un fait, t'es plus que témoin. T'as rien à en dire, même si t'en as les moyens, d'ailleurs t'as rien dit. Bien content d'être en moyenne, quand ton blessé le plus petit. C'est la faute au silence, si les salauds salissent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies. C'est la faute au silence, c'est la faute au silence. C'est la faute au silence, si les salauds salissent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies. C'est la faute au silence. Faut se lever de bonheur, pouvoir fermer un bon cœur. Mais dans les yeux des bonasses, est-ce que tu vois le bonheur? Dès qu'il arrête un podcast, des manifestants, un flou qui se promène podcast, ceux qu'ils détestent. On a notre quota, les petits méfaits, on en oublie les vrais mafieux. Ma foi, on est combien de méfiants? Vois les banquiers qui tiennent les fils, qui tirent les ficelles, nous enfilent pendant qu'à la rue s'étire la file. Chez un chiale pour rien, mais rien dire, c'est trop facile. C'est la faute au silence, si les salauds salissent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies. C'est la faute au silence, c'est la faute au silence. C'est la faute au silence, si les salauds salissent, si les missiles s'élancent, si nos sœurs sont salies. C'est la faute au silence. Le silence forme une croûte sous laquelle les salauds se tairent. C'est pas parce que personne n'écoute qu'on est obligé de se taire. C'est pas parce qu'on se fait fourrer qu'on est obligé de jouir.
Mes mythes sont raforés, c'est de la matière que j'en tire. Matière à réfléchir pour ceux qui fléchissent moins. Ceux qui arrivent de justesse jusqu'à la fin du mois, les épuisés de l'injustice. Qu'on voit jamais un homme qui trouve ça plus que juste. Et qui dans l'ombre gronde si on rush. C'est parce qu'on a la fronde, garde les mains dans tes poches. On vient essuyer la fronde si on rush. C'est parce qu'on a la fronde. Patience, c'est la faute au silence. Si les salauds salis, si les missiles s'élancent, si nos sorts sont salis. Si on stocke, si on stocke la coke en silo. Si on troque Dieu pour une science. S'il y a de la rage dans le stylo, c'est la faute. Goudreau, Beignet, 2012 de trop.
Voilà, c'est du David Goudreau. J'espère que vous avez bien écouté le texte de ce slam qu'on vous a présenté aujourd'hui sur les ondes de Canal M. Je vous rappelle que vous écoutez Des livres plein les oreilles et que David Goudreau sera mon invité la semaine prochaine. Contrairement à ce qui vient d'être annoncé, veuillez prendre note que l'émission avec David Goudreau sera diffusée le jeudi 3 mars prochain. Des nouvelles et des livres. Je n'en avais pas encore parlé, puis j'ai trouvé que c'était une erreur. Alors je vais me reprendre aujourd'hui, même si la nouvelle a déjà quelques mois. C'est la disparition de Georges Hébert Germain. Le Québec perd l'une de ses grandes plumes. Il s'est éteint. Je pense que j'aurai la date. J'ai perdu la date là, mais je devrais vous la retrouver un petit peu plus loin. C'est vraiment bon. Cet homme, écrivain, journaliste, on le sait, scénariste. Et c'est sa conjointe, hein, Francine Chaloux, à ce moment-là, qui avait confirmé son décès. Monsieur Germain était atteint d'un cancer du cerveau depuis déjà 2 ans. Pour vous rappeler un petit peu qui il était et surtout d'où il venait, il est né dans un petit village, le village des Écureuils, aujourd'hui c'est Donnacona, en 1944. Georges Hébert Germain, qui était le deuxième, l'aîné chez les garçons d'une grande famille de 14 enfants. 14 enfants. Choyé dès son enfance, un fait dont il ne se rendra compte qu'une fois adulte, il fera ses études classiques à Trois-Rivières et à Montréal. Après avoir obtenu un diplôme de l'Université de Montréal, il a d'abord opté pour le journalisme, d'abord à la presse et puis au magazine L'Actualité. On pourra éventuellement le lire d'ailleurs dans le Devoir et dans grand nombre de magazines québécois. Après avoir obtenu ensuite, oui c'est ça, c'est la télévision hein, qui a acquis ses services. Il a agi à titre de chroniqueur, on s'en souvient, de critique aussi et de reporter pour les différentes chaînes québécoises. Si mes souvenirs sont bons, il était dans la bande des six. Alors oui avec Marie-France Bazot à l'époque, il y avait Chantal Joly également. Au cours de sa carrière, Georges Hébert Germain a reçu de nombreux prix de journalistes, dont le prix Judith Jasmin et le Grand Prix d'excellence de la Fondation nationale des prix du magazine canadien. Et puis, il était aussi scénariste. On lui doit notamment des documentaires sur les grands barrages et sur les troupeaux de caribous du Québec, mais aussi sur le Cirque du Soleil. Il scénarise également Les Glorieux, un spectacle hommage aux Canadiens de Montréal, présenté par l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano. De 1999 à 2002, il a signé également des portraits de grandes personnalités pour Canal D. Il a animé la série Destination Nord-Ouest à TVA, à TFO, et la série La Rumée vers l'or, diffusée en 2010 et 2012 respectivement à TFO et à TVA. Et puis plusieurs ont connu, et surtout connu, Georges Hébert Germain comme auteur, lui qui compte quand même une vingtaine de livres à son actif. Ça va des romans jeunesse aux romans pour adultes, en passant par des bios. Celle-ci inclut d'ailleurs de nombreuses personnalités. Vous savez, parmi les plus connus, il y a Christophe Colomb, la grande Monica la mitraille, Guy Lafleur, le hockeyeur, l'humoriste Marc Favreau, alias Sol, et puis le politicien Robert Bourassa également, en plus, bien évidemment, de Céline Dion, de sa mère, Thérèse Dion, et de son mari, René Angélil. La biographie sur Robert Bourassa, parue en 2012, avait semé une controverse. D'abord parce que, bon, on a dit qu'elle contenait quelques erreurs factuelles dont, à l'époque, M. Germain s'était défendu en disant qu'il était portraitiste et non journaliste. Et puis ensuite parce qu'un autre auteur, Jean-François Lisée, avait fait paraître au même moment une version condensée de ses livres sur M. Bourassa intitulée « Le petit tricheur, Robert Bourassa derrière le masque ». Alors, dans les médias, M. Germain avait déclaré que le geste de Jean-François Lisée avait été d'une grossièreté inadmissible. Son livre le plus récent, c'est « Jadis, si je me souviens bien ». C'est ce qu'il a fait de plus près de sa propre autobiographie. Il y a raconté des souvenirs d'enfance dans sa famille nombreuse, des souvenirs qu'il admet un petit peu déformés par le temps et qu'il s'amuse à corriger grâce à l'apport de ses frères et sœurs. Vieillir, c'est vivre, mais réaliser qu'on est moins fort, moins puissant, qu'on a moins d'appétit pour plein de choses, c'est un peu attristant, avait-il confié à la presse au moment de la parution du livre. Il laisse dans le deuil sa conjointe, l'attachée de presse Francine Chaloux, et leur fille, l'écrivaine Raphaël Germain. Et puis j'ai pour vous une liste de livres que vous pouvez retrouver de Georges Hébert Germain, si cela vous donne l'envie de lire des livres de cet auteur. Évidemment, Céline, qui l'a côtoyé, ça a été fait, c'est disponible au SQLA. Le Château, également disponible au SQLA. En ce qui concerne Christophe Colomb, Naufrage sur les côtes du paradis, par contre, ça c'est à l'INCA que vous allez trouver cela, mais j'en ai d'autres. Les Coureurs des Bois, oui, on se souvient, ça avait fait un grand succès. On trouve ça également au SQLA. La Fureur et l'Enchantement, SQLA aussi. Guy Lafleur, SQLA. L'Homme aux déficients mentaux, également au SQLA. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Jadis, si je me souviens bien, ça c'est donc le plus récent qu'il ait fait paraître en 2013. Il a été enregistré ici même chez Vues et Voix en 2013. Il est disponible au SQLA. Un autre, non, celui-ci n'est pas disponible, alors je ne vous en parlerai pas. Il y a aussi celui sur René Angélil que j'avais évoqué au moment de la mort de M. Angélil. Celui sur Robert Bourassa est disponible, mais à l'INCA, à l'INCA. Et puis, Souvenir de Monica la mitraille, disponible au SQLA, ainsi d'ailleurs que Thérèse Dion, La vie est un beau voyage. Alors voilà, si vous voulez vous remettre du Georges Hébert Germain entre les deux oreilles, eh bien vous aurez de quoi choisir. Que serait cette émission sans quelques nouveautés en rafale? Je vous avouerai qu'il n'y avait pas grand-chose. J'étais très, très déçue parce que j'ai trouvé dans les nouveautés au mois de janvier 2016 via le SQLA. Je vais quand même vous citer quelques titres en espérant qu'il y a parmi ceux-là quelques livres qui vous tenteront d'aller chercher. D'abord, « L'accoucheur en cuissarde ». Livre québécois, c'est de Jean Désy, D-E-S-Y. Le petit résumé, il dédie Jean Désy, ça c'est plus qu'un résumé, c'est carrément une dédicace, ce recueil aux étudiants en médecine que j'ai eu le bonheur de côtoyer depuis une quinzaine d'années. J'aime passionnément leur enseigner. Quel talent et quelle intelligence chez ces êtres neufs qui avancent, qui sont allumés, qui étincellent dans l'existence et pour qui j'ai tant d'affection. Je leur dédie ces histoires, parce que ce sont ces mêmes étudiants qui, après certains cours, alors que j'avais ouvert la discussion sur des éléments plus personnels ou plus cliniques, m'ont demandé de leur raconter quelques anecdotes tirées de mes expériences, de ma pratique médicale sur la côte nord et autour de Québec, au Nunavik et à la baie James. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'un recueil de récits. C'est d'ailleurs ce qu'on pouvait trouver dans la critique de la presse sortie le 17 avril 2015. Ce recueil de récits est une sorte de legs à ces étudiants et à tous ceux qui croient que la médecine n'est pas une question de science. L'accoucheur en cuissarde de Jean Désy. Le héros discret de Mario Vargas Llosa. Après plusieurs romans situés dans les géographies les plus éloignées dans l'espace et dans le temps, notamment au Congo belge ou dans le Tahiti de Gauguin, Mario Vargas Llosa revient au Pérou. Il fait de son pays natal le décor de ce livre, Le héros discret. Il nous dépeint la situation actuelle d'une société dopée par une croissance économique sans précédent, mais qui voit également se développer la corruption, la cupidité et le crime. Alors, c'est une véritable épopée à laquelle il nous convie entre mélodrame et vaudeville, parce que oui, Vargas Llosa s'amuse et nous amuse avec deux histoires qu'il mène avec brio, deux histoires qu'il mène de front. D'ailleurs, dans la presse, on disait « L'œuvre littéraire de Mario Vargas Llosa regorge de diversité, d'inventivité et de profondeur. L'écrivain hispano-péruvien, nobélisé en 2010, tâte autant de l'essai critique que de la biographie romancée ou du roman tragique ou divertissant, avec toujours le même brio acéré et la plume à la fois précise et foisonnante. » Alors, Mario Vargas, V-A-R-G-A-S, Llosa, L-L-O-S-A, le titre de son livre, Le héros discret. Besoin d'air, d'Elisabeth Bourget. D'abord, qui est Elisabeth Bourget? Cette jeune femme, oui, parce qu'elle n'est pas très vieille, est née à Lévis. Elle a étudié en communication graphique et en création littéraire à l'Université Laval. Elle a travaillé en publicité et puis elle s'est consacrée à la création d'expositions multidisciplinaires, amalgamant tableaux, poèmes, performances et installations. Et ses œuvres ont été vues un peu partout, au Canada, en Haïti également et en Europe. Alors, la description de ce livre « Besoin d'air », qui est un livre, puisqu'elle s'est spécialisée en littérature jeunesse, donc j'ai décidé de vous proposer un livre pour les jeunes aujourd'hui. On parle de Louis, un bon gars, plutôt joli, plutôt pas mal, plutôt bon mec, solide, attachant. Il vit à Montréal, entouré de sa famille et de ses amis. Tous le croient heureux, mais au fond de lui, Louis étouffe littéralement. Sa mère est envahissante, son petit frère trisomique, qui ne lui laisse aucun répit, tandis que son père est aux abonnés absents. Ses amis ne le comprennent pas. Entre son besoin d'amour et son appétit de liberté, Louis sent qu'il va devoir faire un choix, et tant pis pour ce qu'il détruira. C'est le récit sincère et touchant d'un adolescent en train de devenir un homme. C'est, vous l'aurez compris, l'auteur aborde ici des thèmes pas forcément faciles, tels le syndrome de Down, la trisomie et la vie d'une famille monoparentale. Et aussi, dans ce roman, si vous aimez la poésie, eh bien, il y en a beaucoup. Je vous redonne le nom. « Besoin d'air » d'Elisabeth Bourget. L'histoire de Marco Polo, une aventure de Joséphine Watson Finn, d'Aline Apostolska. Si vous êtes des fanatiques de romans historiques et de romans de polar, ce livre est fait pour vous. Écoutez bien ça, archéologue et professeur à l'Université McGill, Joséphine Watson Finn croit passer de bonnes vacances avec son amoureux sur la côte adriatique avant de mener à bien la mission que lui a confiée l'UNESCO. Mais le sort en décide autrement. Sur l'île de naissance de Marco Polo, une jeune femme lui révèle un drame intime qui transforme peu à peu le voyage de rêve en cauchemar éveillé. Le souterrain reliant la maison natale de Marco Polo à l'église attenante semble être l'épicentre d'un trafic mené par un groupe occulte. Alors pourquoi de jeunes vierges y sont-elles séquestrées? puis violées lors de cérémonies rituelles? Où sont emmenés les nouveau-nés issus de ces unions? Que cache la confrérie secrète qui perpétue ces atrocités? Pour quelles raisons la pitié aveugle et recluse parle-t-elle le grec ancien? Et pourquoi Joséphine dissimule-t-elle à son amant ce que peu à peu elle découvre? Elle s'aventure à mener l'enquête au péril de sa vie, bravant la résurgence de ses démons enfouis et d'un passé douloureux. Nous sommes entre les îles de Korkula et de Var, au milieu de vestiges millénaires. Elle n'a pas assez de son savoir et de son intuition pour remonter la piste de cette confrérie qui exploite, à prix d'or, l'inexorable besoin de croire de l'être humain. Alors l'histoire de Marco Polo, une aventure de Joséphine Watson Finn, d'Aline Apostolska, Apostolska. Baïnès de France Cavalier, Baïnès, B-A-I-N-E-S, Cavalier, C-A-V-A-L-I-E. Un petit extrait, tiens. On va se marier, Rose. Arrivée dans mon dos, Oleg a dit ça comme une évidence. Tu verras, ce sera mieux pour les enfants. J'étais muette. Où avait-il passé la nuit? Avec qui? Je ne pensais plus qu'à ça, scrutant son regard, ses beaux yeux bleus posés sur moi. Il a insisté. Alors, Rose? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y a des bonheurs qui ne réjouissent pas tout à fait. Nous sommes dans le Biarritz des années 1980 où l'art contemporain défie les hordes de son passé princier, où les surfeurs règnent sur la côte des Basques, où l'océan cache les baïnès et leurs houlébaïnes et leurs puissants courants contre lesquels mieux vaut ne pas lutter. C'est l'histoire d'un amour en fusion qui déraille à huis clos. Rose et Oleg, un amour bloc avec la mèche à l'intérieur. Et bien l'histoire d'un homme qui va petit à petit violenter sa femme. Voilà, pas un sujet facile, celui-ci non plus, Baïnès, B-A-I-N-E-S de France Cavalier. Ce sera le dernier livre que je vous présenterai pour aujourd'hui. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être fidèle à cette émission qui maintenant est diffusée pour la première fois, en tout cas le jeudi à midi et en reprise dans la semaine. Je vous souhaite de bonnes lectures, une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut !